travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Cela fait 3 ans que nous sommes plongés dans une crise qui n'en finit pas, avec le chômage qui explose. Cela fait 3 ans que tous les pays sont victimes, les uns après les autres, des exactions des banquiers et du pillage d'une bourgeoisie de plus en plus parasitaire. La spéculation qui s'est déchaînée sur la Grèce, sur l'Espagne et sur le Portugal menace maintenant l'Italie et puis la France. Les banquiers spéculateurs reçoivent d'une main des milliards d'aides et de garanties publiques et de l'autre, ils étranglent les finances publiques. En imposant des taux usuraires, ils sont prêts, comme cela, à ruiner des pays entiers. Et que fait Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il s'en prend à eux? Est-ce qu'il accuse les banquiers de voler les finances publiques? Eh bien non. Le voilà qu'il accuse les travailleurs de voler la sécurité sociale en prenant trop d'arrêts maladie. Le voilà qu'il dénonce les fraudes aux prestations sociales et les chômeurs tombés au RSA. Sarkozy marche donc à nouveau sur les plates-bandes du Front National. Eh bien, c'est minable et ça suinte la haine de classe. Sarkozy a le culot de s'en prendre aux travailleurs et d'annoncer un renforcement des contrôles d'arrêt maladie. Mais qui va-t-il envoyer contre ses amis du Fouquet's qui fraudent le fisc en plaçant leur argent dans les paradis fiscaux? Qui va-t-il envoyer contre les patrons qui fraudent aux cotisations sociales? Le gouvernement lui-même reconnaît qu'ils sont responsables des 3/4 de cette fameuse fraude sociale. Et là, je ne parle que des patrons qui fraudent, c'est-à-dire de ceux qui sont dans l'illégalité. Mais à cela, il faut rajouter l'ensemble du patronat qui bénéficie tout à fait légalement, cette fois-ci, des exonérations. Et c'est quand même 30 milliards de cadeaux par an pour les groupes capitalistes. 30 milliards qui sont volés sur les salaires, parce que ces cotisations sociales, elles font partie de ce qui doit revenir aux travailleurs. Et si cette somme était payée par les patrons, comme il se doit, eh bien il n'y aurait plus de déficit de la sécurité sociale. Alors, dans cette société, il y a une poignée d'individus qui vivent en nabab, sans rien faire de leurs 10 doigts. Ils sont entretenus par ceux qu'ils exploitent, et de surcroît, l'État les autorise à ne pas payer ce qu'ils doivent à la collectivité. Alors, Sarkozy peut parler des profiteurs et des parasites, mais ce sont les milliardaires et c'est lui qui contribue à les fabriquer. Pendant ces 3 années de crise, le gouvernement a contracté 420 milliards de dettes supplémentaires. Ces 420 milliards, c'est pas une paille, hein. Où est-ce qu'il est passé tout cet argent? Ces milliards, ils ont bien atterri quelque part, hein. Ils ont bien servi à quelque chose. Qui est-ce qui en a profité? Eh bien, ce qui est sûr, c'est qu'aucun travailleur, aucun retraité, aucun malade n'a vu la couleur de cet argent. Si cette dette a explosé pendant ces 3 années de crise, c'est parce que l'État a fait de l'assistanat en grand aux capitalistes vis-à-vis des banquiers. Et les grandes entreprises, elles ont été aidées à coups de milliards. Les dividendes des actionnaires ont été garantis par des exonérations, par des subventions diverses et variées. Et les plus fortunés, vous le savez, ils ont été protégés par le fameux bouclier fiscal. Alors voilà où sont passés les milliards que le gouvernement Sarkozy-Fillon veut faire payer à toute la population. Les travailleurs, ils en ont des dettes. Qui parmi nous n'a pas eu à s'endetter pour acheter une voiture, pour acheter un logement? Et même parfois, on est obligé de s'endetter tout simplement pour se soigner. Et on est bien obligé de rembourser. Cela nous arrive parfois d'aider un voisin ou un membre de sa famille à rembourser une dette. Mais pourquoi devrait-on payer pour la dette des capitalistes? Pourquoi devrait-on payer pour la dette du patronat? Alors quand bien même on nous ressort cette dette de l'État à toutes les sauces, les travailleurs n'en sont pas redevables. Non, cette dette, c'est la dette de la bourgeoisie, et bien c'est à elle de la rembourser. Le gouvernement fait payer tout le poids de la crise sur les travailleurs, les retraités et les chômeurs. En 4 mois, le gouvernement Fillon-Sarkozy a annoncé deux plans de rigueur. Le premier, avec l'augmentation des taxes sur le tabac, l'alcool, les sodas, l'augmentation des mutuelles, de la CSG et l'accélération de la contre-réforme sur les retraites. Le second, avec la hausse partielle de la TVA, le gel des prestations sociales et encore l'avancement de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Et aujourd'hui, à ce qu'il paraît, les marchés financiers, c'est-à-dire les grandes banques et derrière elles le grand patronat, ont trouvé le plan d'austérité de Fillon pas assez dur. Alors, un troisième plan de rigueur, qui ne porte pas encore son nom, est déjà en route. Et l'insistance que Sarkozy a mis pour expliquer la semaine dernière qu'il est urgent de sauver le modèle de protection sociale français est un signe. Au prétexte de la dette, c'est maintenant tout le système social qui est dans le collimateur du gouvernement. Et ce qui est d'ores et déjà retenu, c'est l'instauration d'un jour de carence pour le paiement des arrêts maladie des salariés de la fonction publique. Pour le reste, le gouvernement hésite encore, mais nul doute que d'autres mesures vont suivre. Pour faire passer la pilule des plans de rigueur, le gouvernement nous explique qu'au final, l'effort est moins lourd que dans bien d'autres pays et que finalement, il ne s'agit que de quelques euros supplémentaires par personne. Mais des millions de familles comptent chaque dépense, euro après euro. Et dans combien de familles les fins de mois arrivent tout de suite après avoir payé le loyer, les assurances, l'électricité, les crédits? Le gouvernement a décidé de geler les allocations logement et les allocations familiales. Mais 8 200 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté, avec moins de 954 euros par mois. Et pour ces millions de femmes et d'hommes, les allocations logement et les allocations familiales, c'est essentiel. Le gouvernement nous dit aussi que nous échappons au pire parce que les salaires ne sont pas touchés. Mais les salaires, comme les pensions de retraite, comme l'allocation adulte handicapé, comme le RSA, sont touchés depuis longtemps parce qu'ils ne suivent pas l'augmentation du coût de la vie. Quel est le salaire qui a suivi la flambée des prix de l'immobilier ou même de l'augmentation du prix du gaz? Et quelle est la pension de retraite qui a augmenté au même rythme que les mutuelles ou que les assurances? Et même se soigner coûte de plus en plus cher. Entre le déremboursement des médicaments, les franchises médicales et les dépassements d'honoraires, combien d'entre nous hésitent pour aller chez le dentiste ou pour changer sa paire de lunettes? Combien d'entre nous renoncent même à acheter ce que l'on appelle maintenant les médicaments de confort? Alors voilà ce que l'on impose aux travailleurs, aux classes populaires. À côté de cela, côté bourgeoisie, le gouvernement a confirmé une remise de 2 milliards sur l'impôt sur la fortune. Il continuera jusqu'en 2013 à payer le bouclier fiscal et il préserve les 75 milliards de niches fiscales qui profitent aux possédants et aux grands groupes industriels. Prendre dans la poche des travailleurs, des retraités, des malades, pour faire des ponts d'or à la bourgeoisie, voilà à quoi se résume la politique du gouvernement. Patronat et gouvernement sèment la misère, et bien ils finiront par récolter la colère. Depuis 3 ans, l'économie est plongée dans une crise qui s'aggrave. Et de sommet en sommet, de G8 en G20, tous les dirigeants du monde capitaliste ont fait la preuve qu'ils ne maîtrisent absolument rien. Et les chefs d'État, comme toutes les grosses têtes au service de la classe privilégiée, comme les prix Nobel de l'économie, jusqu'aux PDG qui sont grassement payés à coups de millions, eh bien tous ces gens-là, ils sont eux aussi désarmés face aux soubresauts financiers. Et ils nous amusent avec de fausses questions du genre « Faut-il ou non sortir de l'euro ?» Mais la seule vraie question, c'est comment faire pour empêcher les banquiers de nuire? Et cette question-là, aucun chef d'État ne veut la poser parce qu'ils sont tous à plat ventre devant les capitalistes et devant les possédants. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que les banques sont gâtées. Cela fait 3 ans qu'elles sont inondées de milliards d'argent public. Alors on peut en faire le bilan de cette politique. À quoi cela a-t-il servi? Eh bien à rien, et pire même. C'est de l'argent qui a fini par nuire à toute l'économie, parce que c'est de l'argent qui a été dilapidé dans les grandes fortunes et qui s'est finalement retrouvé placé dans des opérations financières, c'est-à-dire dans la spéculation. Si on avait jeté cet argent par les fenêtres, il aurait été mieux utilisé. Et aujourd'hui, eh bien, les chefs d'État européens recommencent la même politique. En décidant d'aider les banques à se recapitaliser, en leur réservant des milliards de garanties, ce sont encore des milliards de cadeaux que l'on fait aux banquiers. Alors même que les grandes banques continuent de spéculer au vu et au su de tous, alors qu'elles continuent de verser des dividendes faramineux à leurs traders, alors que tout le monde sait que les banquiers ne font même pas leur travail. Et même les petits patrons s'en plaignent parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir les crédits dont ils ont besoin. Et c'est pour ce gâchis innommable qu'il faudrait accepter de réduire le nombre d'instituteurs, d'enseignants, accepter de réduire le personnel hospitalier, fermer des bureaux de poste. C'est pour ça qu'il faudrait faire des sacrifices. La course effrénée des banques au profit et la spéculation sont catastrophiques pour toute la société. Et pour les arrêter, il ne faut pas compter sur les dirigeants, ce sont les serviteurs des plus riches et des banquiers. Et ils ne feront rien contre eux. On ne l'arrêtera que si cela devient l'objectif du mouvement ouvrier, quand il retrouvera la combativité et la conscience qu'il faut combattre tout le système capitaliste. Et pour un système bancaire, qui fonctionne correctement, eh bien il faudra exproprier les banquiers sans indemnité ni rachat, fusionner toutes les banques en un seul établissement de crédit et le faire fonctionner sous le contrôle et pour l'intérêt de la population. Le système capitaliste, c'est la loi de la jungle. C'est la course individuelle au profit privé, c'est chacun pour soi. Et c'est une économie qui engendre l'irresponsabilité sociale de ceux qui la dirigent. Je veux parler bien sûr des dirigeants des banques et des grandes entreprises. Ces derniers temps, beaucoup de commentateurs ont mis la crise sur le dos des Grecs. Comme si les travailleurs grecs, comme si les retraités grecs avaient abusé et vivaient au-dessus de leurs moyens. Mais si on veut comprendre ce qui s'est passé en Grèce, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, il n'y a pas besoin d'aller à Athènes. Il suffit de voir ce qui s'est passé ici en France, à l'hôpital de Montluçon, ce qui s'est passé dans de nombreuses collectivités locales, dans des municipalités, dans des départements, qui se retrouvent surendettés parce qu'une banque, la Dexia, dans laquelle ils avaient tout lieu de faire confiance, leur a placé des crédits toxiques. Eh bien, en Grèce, ce n'est pas Dexia qui a sévi, mais c'est la BNP Paribas, le Crédit Agricole, la Société Générale, ainsi que les grandes banques allemandes. Elles se sont jetées sur la Grèce, comme des vautours, pour lui prêter à des taux usuraires, jusqu'à ce que la Grèce soit complètement étranglée. Et alors, à ce moment-là, les mêmes banques, inquiètes de ne pas être remboursées, ont imposé à la Grèce cure de rigueur sur cure de rigueur, et elles ont fini par faire plonger toute l'économie grecque dans la spirale infernale de la dépression. Et si les banquiers ont obtenu, lors du dernier sommet européen, les garanties qu'ils voulaient, la Grèce, elle, est en train d'être transformée en nouveau pays du tiers-monde. Le chômage a explosé, les petits commerces ferment, les retraités sont plongés dans la misère et l'état sanitaire de toute la population se dégrade. Cette irresponsabilité des banquiers spéculateurs, hein, cette irresponsabilité vis-à-vis de la société, eh bien on la retrouve à tous les niveaux de l'économie. Et toute l'économie capitaliste est comme ça, c'est le profit privé à court terme avant tout, et après moi le déluge. Alors les crises et la spéculation sont dans les gènes du capitalisme, et on ne les supprimera qu'en s'attaquant au cœur même du système capitaliste, c'est-à-dire à la propriété privée des moyens de production et en remettant en cause la loi du profit. Aujourd'hui, avec la crise, le patronat mène la lutte de classe avec une violence redoublée. Confrontés à cette crise, les capitalistes compensent leurs pertes ou le ralentissement de leurs affaires en aggravant l'exploitation. Ils augmentent les cadences, ils réduisent la masse salariale, ils licencient. Et tous les grands groupes procèdent de la même façon. Et même s'ils font de l'argent, même s'ils font beaucoup d'argent. Et je voudrais parler un petit peu de ce qui se passe dans le groupe Peugeot-Citroën. Parce que c'est vraiment une leçon de choses. Il n'a pas suffi à la direction de Peugeot-Citroën de battre un record de vente en 2010 et de faire plus d'un milliard de bénéfices. Il ne lui a pas suffi d'enrichir la famille Peugeot de 78 millions dans l'année. Il en faut toujours plus. Et nous avons donc entendu la direction du groupe Peugeot-Citroën annoncer la suppression de 6 800 emplois, dont 5 000 en France. 1 000 concernant des ouvriers, 800 concernant des intérimaires et 4 000 concernant les techniciens, ingénieurs et cadres. Et même si la direction de Peugeot-Citroën dit le contraire, elle a toujours dans ses projets la fermeture de 3 de ses usines. Une à Madrid, une celle de d'Aulnay-sous-Bois dans la région parisienne et une autre à Hordain, Sével-Nord. Si ces entreprises ferment, si ces sites de production ferment, eh bien il faut imaginer la répercussion sur toutes les entreprises sous-traitantes qui travaillent avec PSA. Il faut imaginer les répercussions sur les entreprises petites et moyennes de 50, 100, 200 salariés. Ce n'est pas qu'on ait à s'inquiéter pour les actionnaires de Visteon, de Faurecia ou de Delphi. Mais que va-t-il se passer pour les travailleurs de ces entreprises, pour les travailleurs des fonderies qui travaillent pour PSA, si justement les commandes de PSA baissent? Et puis il ne faut pas non plus oublier les répercussions sur toutes les entreprises autour, sur les entreprises de nettoyage, de sécurité, de restauration, qui acceptent bien souvent les conditions drastiques des grands groupes, parce qu'elles savent qu'au bout du bout, il y a toujours les travailleurs et les ouvriers que l'on peut écraser. Alors la plupart des commentateurs, ainsi que le gouvernement, ont justifié la décision de PSA en parlant de choix industriels, d'investissement dans le monde. En fait, la réalité n'a rien à voir avec ça. Le problème de PSA, c'est d'augmenter encore ses marges en faisant faire la même production par toujours moins de travailleurs. PSA déclare la guerre aux ouvriers et à ses travailleurs au nom de ses profits. On veut nous faire croire que l'hémorragie de licenciements et de fermetures d'entreprises qui frappent le pays s'explique par la crise ou par la concurrence internationale. Mais derrière chaque licenciement, derrière chaque fermeture d'entreprise, il y a des choix. Et des choix qui s'expliquent toujours par la rapacité des capitalistes qui n'ont pas de limites. C'est leur profit avant tout. Et qu'est-ce qu'ils font de ces fameux profits? Eh bien, ils ne les investissent pas dans la production, ils ne les investissent pas dans la création d'emplois, et ni même dans la recherche, parce qu'ils ne font pas confiance dans leur propre économie. Non, ces profits vont grossir les fortunes des grands actionnaires et ils vont grossir les trésoreries des entreprises. Et dernièrement, Philippe Varin, le PDG du groupe PSA, se vantait que le groupe avait 11 milliards d'euros dans sa trésorerie. 11 milliards. L'État les voudrait dans ses propres caisses. Eh bien, ces 11 milliards, ils ne dorment pas au fond d'un bas de laine et ils ne sont pas non plus tous transformés en lingots d'or. Non, c'est de l'argent qui doit bien sûr rapporter, qui doit faire des petits. Et donc, eh bien, il est placé sur les marchés financiers. À ces 11 milliards du groupe PSA, il faut rajouter ceux de tous les grands groupes capitalistes. Et il faut rajouter à cela les fortunes de la grande bourgeoisie. Et vous avez l'argent qui alimente au quotidien les fameux marchés financiers. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Qui sont les spéculateurs? Ce sont ces exploiteurs-là. Alors voilà à quoi sert l'argent arraché aux travailleurs, à coup de licenciements, d'augmentation de cadence et d'heures supplémentaires. C'est de l'argent gâché dans la spéculation, et c'est de l'argent qui finit par se retourner contre toute la société. Et il n'y a pas d'un côté le méchant capitalisme financier, et de l'autre le bon capitalisme industriel. Les groupes industriels et les grandes fortunes alimentent les marchés financiers, et les uns et les autres sont étroitement entrelacés. Le développement de la finance et la spéculation va de pair avec l'exploitation. Et on ne les supprimera qu'en s'attaquant au cœur même du système capitaliste, en s'attaquant à la domination de la bourgeoisie. Alors, le sort des travailleurs dépend de la lutte de classe. Il dépend du rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Et ce n'est pas l'élection présidentielle de 2012 dont on nous parle du matin au soir qui changera cela. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient, quand ils ne prenaient pas fait des causes pour eux. Et y compris les gouvernements de gauche, ceux de Mitterrand et de Jospin, et même quand ils avaient fait des promesses aux travailleurs. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous ne sommes pas embarrassés par les promesses du candidat socialiste. Et que les travailleurs ont peu de risques de se sentir trahis par Hollande, le nouveau champion du Parti socialiste, puisqu'il ne s'est engagé à rien vis-à-vis d'eux. Il ne s'est pas engagé à faire quoi que ce soit contre la dégringolade du niveau de vie des couches populaires, contre les bas salaires. Il n'a rien opposé aux fermetures d'usines, aux licenciements, sur les retraites. S'il a promis que l'âge légal serait ramené à 60 ans, c'est aussitôt pour rajouter qu'il faudrait bien sûr cotiser plus longtemps pour avoir une retraite à taux plein. Autrement dit, les travailleurs auront peut-être le choix de partir un petit peu plus tôt, mais en choisissant une retraite de misère. Sur les 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale au bout de 5 ans, il est de plus en plus clair qu'ils seront pris sur d'autres postes de la fonction publique, ce qui s'appelle déshabiller Pierre pour habiller Paul. Aujourd'hui, si Hollande critique Sarkozy, c'est pour lui donner des leçons de rigueur. Le plan du gouvernement, le plan de rigueur du gouvernement, serait inefficace et improvisé. Et selon les propres termes de Hollande, il est incohérent, injuste et inconséquent. Eh bien, nous sommes prévenus. Si Hollande est élu, il fera, lui, prendre un plan de rigueur cohérent et conséquent. Et quant à la justice, ce sera l'enrobage. Et quel que soit l'enrobage, quand les dirigeants politiques parlent de rigueur, ce sont toujours les classes populaires qui finissent par payer. Alors, si les travailleurs ont toutes les raisons d'exécrer Nicolas Sarkozy, ils n'en ont aucune, vraiment aucune, de faire confiance en François Hollande. La seule perspective politique valable pour les travailleurs, c'est d'inverser le rapport de force avec le patronat. C'est de ne pas se laisser faire, c'est de rendre coup sur coup. Il n'y a pas de raccourci électoral. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a jamais eu de travailleur suprême pour les travailleurs, de sauveur suprême pour les travailleurs. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont arraché au patronat, par leur grève, par leur lutte, par leur manifestation. La seule façon d'arrêter les coups portés à la classe ouvrière, c'est une explosion sociale, où des millions de travailleurs se mettent en mouvement et qui fassent craindre à la bourgeoisie de perdre non seulement beaucoup d'argent, mais de perdre aussi son pouvoir sur les entreprises. Eh bien, nous avons la conviction que les attaques du grand patronat contre les travailleurs et la provocation des riches et de leurs porte-paroles en tout genre finiront par provoquer une telle explosion sociale. Quand, où et comment ces luttes se déclareront, nous ne le savons pas. Et il serait vain de broder à ce propos. En revanche, nous avons tout intérêt à ce que le jour où cela arrive, nous soyons prêts. Et se préparer, eh bien, c'est discuter de nos revendications, c'est fixer des objectifs qui nous unissent tous, par-delà la situation individuelle des uns et des autres, par-delà notre branche professionnelle ou notre catégorie. C'est de discuter des objectifs dans lesquels les travailleurs en activité, ceux qui ont été poussés au chômage, ceux qui sont à la retraite, et les jeunes, qui galèrent de petit boulot en petit boulot, peuvent se reconnaître. La colère ou même la détermination ne suffiront pas pour inverser le rapport de force. Il faut aussi que les travailleurs aient une politique, qu'ils savent, qu'ils sachent où ils veulent aller, pour quels objectifs ils peuvent se battre. Sans quoi il y aura toujours des charlatans pour nous emmener vers des impasses et à plus forte raison, vers des voies qui sauve la mise à la bourgeoisie. Il faut qu'il soit clair pour tous que les dégâts de la crise seront inévitablement payés. Et si les travailleurs ne veulent pas que la bourgeoisie et ses dirigeants politiques la leur fassent payer, il faut contraindre les possédants à payer. C'est eux ou c'est nous. Et tous les responsables politiques qui prétendent venir en aide aux exploités Mais sans s'en prendre aux exploiteurs, à leur profit, à leur fortune, sont des menteurs. Oui, il faudra faire payer la bourgeoisie. Quant à ceux qui brandissent la démondialisation ou le protectionnisme comme des solutions, ils nous racontent des histoires. S'il s'agit de dénoncer les capitalistes qui ferment des entreprises, pour en ouvrir ou pas d'ailleurs dans un autre pays, voire même dans une autre région, pourquoi ne pas dénoncer les responsables directs, les licencieurs, les capitalistes eux-mêmes qui suppriment des emplois pour accroître leurs profits? Pourquoi montrer du doigt les travailleurs à l'autre bout du monde qui sont nos frères? Ce n'est pas des travailleurs chinois, indiens ou autres dont il faut se protéger. C'est des capitalistes, c'est de leur rapacité, c'est de leur diktat. La concurrence internationale dont il faudrait se protéger est organisée par nos propres capitalistes, qui sont parmi les premiers profiteurs de l'exploitation à l'échelle du monde. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes multinationales, d'un bout à l'autre de la planète. Alors, dire ou faire entendre que la démondialisation est possible et souhaitable est une stupidité. Tout est mondialisé. Le savoir, les techniques, les capitaux, les idées. La production est mondialisée. Les moyens de communication et les moyens de transport sont plus développés que jamais. Et la planète est devenue un village. Et c'est heureux, parce que nous sommes une seule et même humanité habitant sur la même terre. Et ça, Marx l'avait compris, dès les années 1840, alors que la mondialisation n'en était qu'à ses débuts, eh bien il avait déjà compris que l'humanité allait être fondue dans un sort commun et que plus aucun problème ne pourrait trouver de solution à une échelle nationale. Eh bien à sa suite, nous pensons que les travailleurs du monde entier ont les mêmes patrons à combattre et les mêmes chaînes à arracher. Et nous sommes convaincus que la société débarrassée du capitalisme sera organisée à l'échelle du monde, qu'elle sera basée sur la mondialisation, c'est-à-dire sur la mise en commun de ce qu'il y a de meilleur à l'échelle de toute la planète. La démondialisation, c'est la version moderne de la propagande nationaliste qui était, il y a peu, le terrain de prédilection de l'extrême droite. Et bien que ces idées soient aussi véhiculées à gauche, ne change rien au fait que c'est un poison pour les exploiter. Dans cette période de crise, il n'est d'ailleurs pas impossible que les États capitalistes en viennent eux-mêmes à remettre en cause les accords commerciaux internationaux ou les accords financiers internationaux. Nous allons peut-être vivre une phase de remontée du protectionnisme. Mais souvenons-nous, la dernière fois que les grandes puissances ont opéré ce genre de repli protectionniste, ce genre de repli nationaliste, c'était à la suite de la crise des années 1930, et cela a mené à la Seconde Guerre mondiale. Alors personne ne peut dire où nous mènera la crise actuelle du capitalisme. Mais ce qui est certain, c'est que pour la classe ouvrière, il n'y aura d'issue qu'à travers des luttes pour défendre ses intérêts propres, et qu'à travers la conscience d'être à l'échelle du monde une seule et même classe exploitée. Nous avons donc à protéger par nous-mêmes nos seuls moyens d'existence, nos emplois, nos salaires. Et il faut les défendre bec et ongles en imposant l'interdiction des licenciements et la répartition du travail entre tous les bras disponibles sans diminution de salaire. Même dans cette période de crise, il y a toujours du travail, il y a toujours de l'activité, même s'il y en a moins. Eh bien, le partager entre tous ne serait pas bien compliqué. On pourrait, dans beaucoup d'entreprises, commencer par réintégrer les intérimaires, les stagiaires, les CDD qui ont été mis dehors, et qui connaissent très bien le travail. Et on pourrait alors diminuer les horaires de chacun, on pourrait diminuer les cadences de travail, on pourrait rajouter des temps de pause. On pourrait créer des postes dans les hôpitaux, dans les écoles. Au lieu de fermer des usines, des bureaux ou des services et de concentrer le travail sur ce qui reste, il faut répartir le travail entre tous. On ne peut pas accepter que ceux qui ont un travail croulent sous la charge, alors que de plus en plus de bras sont condamnés à l'inactivité et au chômage. Il faut forcer le patronat à embaucher. Bien sûr, cela lui coûtera de l'argent. Mais ces exploiteurs, ils en ont de l'argent. Et c'est précisément parce que cet argent est détourné vers les opérations financières que la société crève aujourd'hui. Alors cet argent, eh bien, il serait mille fois mieux utilisé à des embauches et au paiement des salaires. Et puis nous devons bien sûr nous battre pour des augmentations de salaires, pour des augmentations des pensions de retraite et pour imposer leur indexation sur les prix. Et sur les prix que nous mesurerons nous-mêmes, par en bas, au jour le jour. Alors les capitalistes, les patrons nous expliqueront, ou alors ils le feront expliquer par leurs serviteurs de la politique et des médias, que tout ça, ce n'est pas possible, que c'est utopique, et surtout que ça les ruinerait, parce qu'il y a la fameuse concurrence internationale. Et bien qu'ils rendent donc public leurs comptes, pas leurs comptes officiels, destinés au fisc complaisant, mais les comptes où figurent tout ce qu'ils versent aux actionnaires, tout ce qu'ils consacrent à des opérations financières, c'est-à-dire à la spéculation. Et on verrait alors qu'ils ont de quoi assurer l'emploi de tous les travailleurs sans licenciement et qu'ils ont même de quoi augmenter les salaires de tous. Les capitalistes cachent leur course au profit privé et leur dangerosité pour toute la société derrière le secret des affaires. Alors il ne faut pas les laisser prendre leurs décisions dans le secret des conseils d'administration, sans le moindre contrôle, sans même la moindre transparence. Pour pouvoir les empêcher de faire leur sale coup en cachette, il faut lever le secret industriel et le secret bancaire. Aujourd'hui, un salarié, un cadre, même s'il est au courant d'un projet contraire aux intérêts des travailleurs, contraire aux intérêts de la société ou même de l'environnement, eh bien il a interdiction de le dévoiler. Et voilà pourquoi bien des travailleurs sont les derniers avertis quand ils sont licenciés. Voilà aussi pourquoi quand une entreprise pollue, voire empoisonne la population, celle-ci ne l'apprend qu'une fois que le mal est fait. Eh bien, il faut changer cela et il faut supprimer cet interdit. C'est l'intérêt des salariés, mais c'est aussi l'intérêt de bien d'autres catégories populaires. C'est l'intérêt de toute la société. Bien sûr, supprimer la loi qui punit actuellement tous ceux qui rendent public les mauvais coups qui se préparent derrière le secret des affaires ne fera pas tout. Cela ne fera que créer les conditions légales d'un contrôle de la population. Mais pour que ce contrôle soit effectif, il faudra encore la volonté des travailleurs de se mobiliser et de s'organiser pour cela. Mais la suppression du secret des affaires sera un premier pas qui, nous l'espérons, sera suivi de bien d'autres pour contester la dictature du grand capital. Alors voilà les objectifs vitaux pour le mouvement ouvrier. Nous ne le répéterons jamais assez, mais nous le savons, ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'au prix de luttes déterminées, massives, mobilisant la majorité du monde du travail. Mais c'est la seule issue. Et je me présente dans cette élection pour défendre cette politique qui est un programme de lutte pour les travailleurs. Et aucun autre candidat ne le met en avant. Et même ceux qui se targuent d'être plus radicaux ne le mettent pas en avant. Parce qu'ils sont trop respectueux du marché, de la concurrence et de la propriété capitaliste pour le faire. Alors il n'y a aucune raison de laisser dans cette campagne électorale le monopole de la parole à tous ces dirigeants qui se disent de gauche, mais qui s'accommodent de cette société capitaliste qui est un ordre social injuste et une organisation économique stupide. Non, l'avenir de l'humanité ne peut pas être le règne des profits. La société capitaliste, c'est une maison de fous où les crises sont déclenchées parce qu'il y a trop d'argent à un pôle de la société. Parce qu'il y a trop de production et trop de richesses par rapport à ce que la population peut acheter. Et ce trop-plein de richesses, Eh bien, il finit dans la finance, dans la spéculation, et cela étouffe toute l'économie. Le capitalisme, c'est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. Nous n'avons jamais eu autant de moyens pour construire vite et bien, mais il manque de plus en plus de logements pour les classes populaires. Et plus on peut faire circuler les connaissances et le savoir, moins il y a d'éducation. Plus on a les moyens de soigner des maladies graves et même de réussir des prouesses médicales, et moins les gens se soignent. Et puis, on est capable de produire de la nourriture pour deux fois la population de la planète, mais il y a des millions de femmes et d'hommes qui sont affamés aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique. Eh bien, pour changer cela, il faut une transformation profonde de la société. Une transformation qui ne peut se faire sans que la bourgeoisie soit expropriée et sans que la production soit réorganisée sur de tout autre base. Et cela, seule la classe ouvrière peut le réaliser. Car les travailleurs n'ont rien à perdre à ce combat. Au contraire, ils ont tout à gagner. Ils ont un monde à gagner. Alors, à tous ceux révoltés par le gâchis de cette société capitaliste, nous disons que l'avenir appartient aux travailleurs, à leur lutte et au communisme. Et dans cette campagne, je voudrais m'adresser spécialement aux jeunes. Pour ces jeunes qui commençaient la vie active, ces 3 années de crise ont été des années perdues. Ce sont des centaines de milliers de travailleurs, de jeunes travailleurs, y compris diplômés, qui se sont entendus dire que ça n'embauche pas. Et combien de CV ont-ils envoyés? Combien de stages ont-ils acceptés? Et combien d'attentes ont-elles été déçues? La jeunesse travailleuse est ballottée de stage en stage, de petit boulot en petit boulot, le tout entrecoupé de périodes de chômage. Les espoirs de réussite individuelle sont désormais réservés à une toute petite minorité de la jeunesse favorisée. Et beaucoup de jeunes comprennent que la société leur réserve une vie difficile, plus dure même que celle de leurs parents. Eh bien, à ces jeunes, je dis qu'il est possible de changer les choses à condition de se battre et de lier son sort au combat de la classe ouvrière. La jeunesse, qui a toujours été à la pointe des contestations, a un rôle clé à jouer dans cette riposte nécessaire. Qu'on soit jeune ou moins jeune, chacun a le choix de lutter pour un monde meilleur. Pour un monde meilleur qui utilise les ressources dont dispose l'humanité pour satisfaire les besoins de tous et pas seulement ceux d'une minorité rapace. Au lieu de l'individualisme de la société actuelle, il y a la solidarité, la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Au repli nationaliste, voire xénophobe, il faut opposer l'internationalisme, c'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les frontières sont des barrières artificielles que l'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. À tous ceux qui ne se résignent pas, nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités de classe et réorganisée sur des bases communistes. La transformation de la société n'est bien sûr pas l'enjeu de l'élection présidentielle, elle ne peut pas l'être. La transformation révolutionnaire de la société ne peut pas surgir des urnes, pas plus de celle de la présidentielle que d'aucune autre. Cela ne pourra résulter que de l'activité consciente des masses exploitées, révoltées par leurs conditions d'existence et décidées de prendre le mal à la racine. Mais à une toute autre échelle, il en va de même du programme de lutte que j'ai exposé. Aucun vote ne pourrait l'imposer. Il faudra bien entendu des luttes puissantes. Mais cette campagne électorale, elle nous donne la possibilité de défendre ce programme de lutte et de préparer politiquement les travailleurs pour les luttes à venir. Cette campagne, elle nous donnera un peu plus accès aux médias. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, ce moyen ne pèsera pas lourd face au matraquage médiatique en faveur du point de vue des possédants. Et il ne faut pas s'en étonner. Depuis toujours, le mouvement ouvrier a dû se donner ses propres moyens pour propager sa propre politique. Et parmi ces moyens, eh bien, il y a surtout l'activité des militantes et des militants, des travailleurs conscients et de celles et ceux qui sont dans leur camp et qui partagent ces idées. Vous pouvez contribuer à faire entendre ces idées dans cette campagne. Si vous le voulez, vous pouvez nous aider à faire entendre une voix communiste qui n'en reste pas à la dénonciation des excès du capitalisme, mais qui remet en cause les fondements mêmes de ce système. Vous pouvez contribuer par la parole auprès de vos voisins, dans votre atelier, dans votre bureau, dans votre entourage. Vous pouvez contribuer en participant à nos campagnes d'affiches, à l'organisation de nos réunions et de toutes les façons qui vous sembleront possibles. Alors, vous l'aurez compris, nous comptons sur vous tous qui êtes ici pour nous aider dans cette campagne. Si l'élection présidentielle peut contribuer à faire connaître plus largement ces idées, à les populariser, eh bien ce sera un pas considérable pour préparer la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les entreprises, dans la rue, en tout cas dans les luttes.